a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec en votre compagnie. Bienvenue dans l'Amérique et vous. Que représente la fête du 4 juillet pour les Noirs américains? C'est la question que l'on se pose ce soir. Lorsque la déclaration d'indépendance a été signée le 4 juillet 1776, des Noirs étaient encore esclaves aux États-Unis. Conséquence pour certains Noirs américains, les célébrations annuelles du 4 juillet ont un goût amer. Quel rôle ont-ils joué dans la guerre d'indépendance? Aujourd'hui, comment perçoivent-ils ce jour férié? Nous attendons vos questions et vos commentaires. Appelez le 001 202 205 26 33 et pour ceux qui ont laissé leur numéro sur la page Facebook de VOA Afrique, nous commençons dès maintenant à vous appeler. Les Noirs américains et le 4 juillet. Pour en parler, nous avons un très beau panel composé de femmes. Ça fait plaisir et je sais qu'il y a parmi vous des féministes. Françoise Vergès, historienne spécialiste de l'histoire de l'esclavage. Marilyn Sefok, le professeur à Howard University, une université noire américaine ici à Washington DC. Et Erika Blackwell, spécialiste du marketing multiculturel. Vous avez notamment réalisé des études de consommateurs pour les Afro-Américains. Vous préparez en ce moment des podcasts sur les cultures afro et puis surtout, vous êtes une Noire américaine. Bonsoir mesdames.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Erika, je me tourne d'emblée vers vous pour cette première question. La déclaration d'indépendance n'a pas entraîné la libération des esclaves. En tant que Noire américaine, que représente pour vous cette fête du 4 juillet? Il y a quand même un paradoxe.
Oui, effectivement, c'était seulement après presque 100 ans de manifestations pacifiques que les Afro-Américains ont pu goûter ce que ça voulait dire d'être une Américaine libérée, donc et être une citoyenne avec tous leurs droits. Donc, je pense que c'est assez compliqué pour moi, et également pour mes compatriotes et ma famille.
C'est compliqué, c'est-à-dire, est-ce que vous célébrez quand même cette fête? C'est un jour férié?
Oui, absolument. Un peu comme Thanksgiving, les Afro-Américaines sont tout à fait conscientes avec l'histoire des Afro-Américaines et comment ça a pris plus longtemps pour nous, mais on fête quand même ce jour et on fait des choses en famille, on va à la parc, on fait des barbecues, etc.
Mais quand même, est-ce que le paradoxe occupe vos esprits pendant que vous célébrez?
Oui, je pense que ça lance des conversations intéressantes, surtout entre les générations jeunes et plus âgées. Par exemple, nous sommes plus ou moins habitués à une sorte de définition de patriotisme beaucoup plus complexe qu'on voit chez les Blancs américains, où on va souvent entendre les choses comme « il faut aimer les États-Unis, soit il faut l'aimer, soit il faut partir ». Pour les Afro-Américaines, les États-Unis, le drapeau, le 4 juillet, même l'hymne national, tout ça a été remis en question plusieurs fois, donc on est beaucoup plus habitué à avoir ce genre de conversation vivre dans un contexte où on aime notre pays, mais on ne se sent pas toujours aimé.
Marilyn Sefok, vous travaillez au cœur de cette communauté noire américaine à Howard University. Vos collègues, vos étudiants ont-ils eux aussi une relation difficile avec la fête de l'indépendance américaine?
Alors, je ne peux pas parler au nom de mes collègues ou de mes étudiants, mais je devrais dire ceci, c'est que au départ, l'indépendance américaine a, comme vous disiez un petit peu plus auparavant, un goût amer pour les Africains-Américains, pour la bonne raison que l'indépendance a été signée à Independence Hall, et à Independence Hall, au premier étage. C'est là que l'indépendance a été signée. Toutefois, à l'étage en dessous, il y avait une cour de justice, et cette cour de justice justement statuait sur les esclaves, les personnes qui avaient été réduites en esclavage et qui s'étaient échappées, donc qui voulaient la liberté. Et cette cour de justice était extrêmement dure vis-à-vis des Africains américains. Donc dès le départ, il y a un paradoxe au sein même de Independence Hall.
Mais en dehors de la communauté noire, hein, ce paradoxe fait-il partie du débat à l'échelle nationale, Marilyn ?
Alors malheureusement, il ne fait pas assez partie du débat à l'échelle nationale. Ce qui ne fait pas assez partie aussi du débat à l'échelle nationale, ce sont les milliers et milliers d'Africains américains qui se sont battus justement pour l'indépendance des États-Unis vis-à-vis de l'Angleterre. Et donc, très souvent, ils sont oubliés dans l'histoire.
Alors, la complexité du problème d'aujourd'hui, elle est dans l'histoire, donc j'aimerais bien qu'on remonte un peu dans le temps, qu'on parte à la source du problème. La guerre américaine d'indépendance contre le pouvoir colonial britannique est présentée comme une lutte pour l'émancipation, mais pas pour les Noirs, qui eux demeuraient esclaves. Françoise Vergès, ces esclaves, comme le mentionnait Marilyn à l'instant, ils ont pourtant pris part à cette guerre d'indépendance. Dans quel camp étaient-ils ?
Ils étaient dans les deux camps, puisqu'on sait que le gouverneur de la Virginie, Lord Dunmore, va offrir la liberté aux esclaves qui vont se rejoindre les troupes anglaises, et des quelques milliers vont signer, et vont se battre des deux côtés. En fait, ils se battent pour leur liberté. Ils ne se battent pas nécessairement pour l'indépendance, mais parce qu'ils pensent qu'ils peuvent trouver leur liberté en se battant. Et on leur promet d'ailleurs, les Anglais leur promettent la liberté s'ils se battent. N'oublions pas que Washington, un des pères fondateurs, va interdire que les Noirs portent des armes. Ils ont peur. Ce sont tous les pères fondateurs, sont tous des esclavagistes. Ils ont peur que si les Noirs prennent les armes, ils puissent se retourner aussi contre eux. Donc on a, et pourtant, si vous voulez, pourtant les Noirs ont rejoint les troupes, mais vraiment avec l'idée de pouvoir gagner leur liberté. C'était quand même cela pour eux. L'indépendance n'était pas contre le colonialisme anglais, mais c'était pour la liberté, puisque de fait, si vous voulez, si l'esclavage continuait, qu'est-ce que ça signifiait l'indépendance ? Il n'y avait absolument pas d'indépendance pour eux. Donc on voit, si vous voulez, c'est un peu, je pense que si certains aujourd'hui, Africains-Américains, dans les jeunes générations, ou même peut-être plus âgés, trouvent que ce 4th of July est un goût amer, c'est un peu normal. Et il me semble aussi que ça vient de ce plus large mouvement où on s'interroge aujourd'hui sur tous ces grands récits des grandes révolutions du 18e, qu'elles soient la révolution française, anglaise ou américaine, parce qu'aucune d'entre elles n'a mené la révolution jusqu'au bout. C'est-à-dire quand même, tous sont restés des puissances esclavagistes ensuite. Donc on a en France le rétablissement de l'esclavage par Napoléon, l'Angleterre ne va pas abolir l'esclavage ni la traite avant 1815, bien plus tard, et les États-Unis vont continuer à pratiquer l'esclavage. Donc une déclaration d'indépendance qui efface effectivement où les Américains blancs voulaient l'indépendance, mais ils ne voulaient pas la liberté pour tous. Donc si vous voulez, le principe qui est celui vraiment des Lumières, que tous les hommes, puisque c'était ainsi qu'on parlait à l'époque, naissent et demeurent libres et égaux en droit, ne s'appliquait pas du tout, était en fait un principe pour les Blancs.
Ouais. Alors il y a donc deux camps, hein, vous l'avez mentionné, certains vont se battre aux côtés des Britanniques qui leur promettent la liberté en échange de leur combat, mais il y a aussi à cette époque un mouvement abolitionniste à Londres. Est-ce que les esclaves s'attendaient peut-être à ce que la Grande-Bretagne proclame l'abolition avant l'Amérique, et donc là il y aurait un intérêt à rester du côté de la colonie?
Oui, certains pouvaient le penser. Et puis, de toute façon, vous savez, bon, il y a la Black Brigade qui va se constituer. Il y a aussi, si vous voulez, quand même un désir d'instituer la liberté sur le sol même des États-Unis. Et on sait que, effectivement, pour ceux qui se battront aux côtés de l'Angleterre, ils auront la liberté, encore que certains de leurs anciens propriétaires vont essayer de les rattraper, de dire que c'est une propriété privée. Donc oui, ils pouvaient espérer, il y avait quand même l'idée de cette de les esclaves étaient tout à fait au courant des grandes idées de liberté et d'égalité qui couraient à travers le monde atlantique. Ils sont pas du tout, c'est pas des, donc c'est des personnes qui le font en toute conscience.
Et du côté des patriotes, hein, ceux qui menaient la révolution, est-ce que eux aussi, ils ont proposé aux Noirs la libération en échange de leur combat, ou est-ce que ils ont tout simplement
très
été
peu,
enrôlés?
Très peu d'entre eux, que ce soit Washington, Jefferson, Madison, ou Benjamin Franklin, ou Patrick Henry. Et d'un côté, ils vont tous rester des esclavagistes. Il y en avait un ou deux qui vont quand même trouver que finalement, s'ils viennent se battre aux côtés des troupes contre le colonialisme anglais, il faut leur donner la liberté, mais l'intérêt économique va primer. Et puis, de toute façon, quand on relit les déclarations de tous ces leaders de la guerre d'indépendance, ils parlent de manière tout à fait raciste aussi. C'est-à-dire, ils ont peur, ils pensent que les Noirs ne méritent pas la liberté, qu'ils ne sauront pas quoi en faire. On n'est pas du tout dans un siècle, on n'est pas du tout dans une société tout à, libérée du tout, de préjugés racistes et de préjugés anti-africains, anti-Noirs. Il y avait quand même une grande peur, une très très grande peur. N'oublions pas que dans certains États, les esclaves noirs constituent près de 40% de la population. Donc il y a une très grande peur aussi de qu'ils gagnent leur liberté et qu'avec leur liberté, ben, ils puissent changer quand même le cours des choses.
Oui, d'ailleurs, le fait d'entrer en guerre pour les propriétaires d'esclaves, cela pouvait poser quand même une menace, dans le sens où s'ils quittent leur propriété,
exactement,
ça donne une chance,
exactement,
aux esclaves.
Ils avaient très très peur de quitter leur propriété et que pendant ce temps-là, les Noirs se retourneraient. Et puis, si vous voulez, il y a aussi des causes à la guerre d'indépendance qui ne sont pas simplement des causes de liberté. On sait que, par exemple, l'État de Virginie ne voulait plus payer les taxes qu'imposait l'Angleterre sur chaque esclave qui entrait dans l'État, si vous voulez, parce que évidemment les Anglais se servaient aussi au passage. Et l'État de Virginie ne voulait plus, parce que l'État de Virginie voulait eux-mêmes, si vous voulez, faire produire des esclaves, si vous permettez l'expression, dans leurs plantations pour pouvoir les vendre, pour que la traite se constitue à l'intérieur même des États-Unis. Il n'y a pas que des causes grandioses à la guerre d'indépendance. Il y a aussi des causes tout à fait de vouloir de se séparer d'un État évidemment qui opprimait, qui était colonial, mais qui est aussi pour pouvoir préserver des intérêts esclavagistes, des intérêts économiques esclavagistes.
Alors justement, je vais peut-être me tourner vers Marilyn, l'esclavage aurait donc joué un rôle dans la guerre d'indépendance. Il y a même des historiens qui vont jusqu'à dire que la lutte américaine pour l'indépendance était en grande partie motivée par le désir des colons et d'éviter que la monarchie anglaise mette un terme à l'esclavage. Est-ce que vous partagez cette lecture ?
Oui, tout à fait. Il s'agissait avant tout d'essayer de continuer l'esclavage. Lincoln, durant donc sa proclamation de l'émancipation des Noirs, il n'était pas tout à fait. On parle déjà d'un siècle plus tard, de 1863. Donc il n'était pas au départ pour l'émancipation des Noirs. Ça a été un cheminement chez lui, un long chemin. Et c'est par la suite qu'il a été, quand il a été convaincu de cette cause, qu'il a embrassé la cause de l'émancipation des Noirs. Donc aujourd'hui, pour revenir à l'époque actuelle, aujourd'hui, quand les footballeurs noirs s'agenouillent. Et donc on voit cela comme une sorte de beaucoup de personnes à la droite du political spectrum, ils voient cela comme étant un défi, un manque de patriotisme, etc. Alors qu'en fait, il s'agit de l'opposé, il s'agit d'un acte extrêmement patriotique. Les Noirs américains ont toujours été à la source des grands bouleversements en faveur justement de l'amélioration de la société américaine. Et donc aujourd'hui, quand un footballeur noir américain s'agenouille, c'est un symbole patriotique extrêmement fort, alors qu'on le présente comme l'opposé même du patriotisme. Ceux qui s'enveloppent, si vous voulez, dans le drapeau américain, comme on dirait en anglais, patriotism is a refuge of the last refuge of scoundrels. C'est bien vraiment le cas, parce que en fait, ils ne veulent pas justement de cette égalité qui engloberait tous les citoyens américains.
Mais finalement, comme le mentionnait Erika tout à l'heure, la notion de patriotisme ici aux États-Unis, ça peut avoir un clivage.
Oui, il y a un clivage entre ceux qui s'accrochent au symbole même du patriotisme, c'est-à-dire le drapeau, l'hymne, le pledge, comment dirais-je en anglais, dans les écoles,
le
alors qu'il y a ceux qui veulent de vraies réformes, qui veulent que vraiment il y ait une vraie égalité entre les races, les religions, que certains essaient justement petit à petit de d'éroder tout ce qui a été accompli depuis justement les civil rights movement.
Allez, on va laisser la parole à un de nos auditeurs, Mahamadou Traoré. Bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir à tous les auditeurs.
Alors ma question, Mahamadou, c'est, la déclaration d'indépendance n'a pas entraîné la libération des esclaves. En tant qu'Africain, quel est votre sentiment? Comment vous percevez ce paradoxe?
Bon, c'est une désolation, une déception totale, puisque en tant qu'Africain, moi aussi, les Noirs, l'indépendance des États-Unis des Noirs n'a pas trop consenti aux Noirs. Des États-Unis d'Amérique n'a pas trop consenti aux Noirs. Cela veut dire que l'esclavage n'a pas été totalement aboli en son temps. Donc, ils ont quand même été indépendants. Ils ont demandé l'indépendance. Ils ont eu l'indépendance, mais il y avait des Noirs qui étaient encore esclaves. Donc, c'est un sentiment de déception et de dégalance.
D'accord. Est-ce que vous avez une question éventuellement pour nos experts?
Bien sûr. Je voudrais poser d'abord une première, voire une deuxième question. Et la toute première question est que, parce qu'on a vu dans ces deux ou trois dernières années, il y a eu des policiers qui ont tiré sur des Noirs. Et je voudrais savoir si toutefois il y a eu des sanctions contre ces policiers. Est-ce que ces policiers ont été condamnés, puisque les dossiers m'ont échappé? Et la question est, quelle est l'employabilité des Noirs aux États-Unis d'Amérique? Parce que moi, je suis Africain, je ne connais pas trop les États-Unis d'Amérique.
Alors, peut-être la première question sur les violences policières. Mesdames, y en a-t-il une qui se sent de répondre?
Il n'y a pas toujours eu de sanctions contre les policiers.
Oui. Alors, Marie-Line, on vous écoute.
Oui, il n'y a pas toujours eu de sanctions contre les policiers, et justement, c'est ça qui a encouragé certains parmi les footballeurs, surtout, pas seulement les footballeurs. Il y a tout un mouvement qui existe aux États-Unis contre les abus de la police. Et donc, c'est une situation qui perdure. Et c'est une situation qui endommage les relations entre les races.
La déclaration d'indépendance stipule que tous les hommes sont nés libres et égaux. Françoise Vergès, les révolutionnaires étaient-ils conscients de la duplicité de leurs actes, sachant qu'en plus ils avaient des esclaves?
Je pense, oui, tout à fait. Je pense que, si vous voulez, une des grandes révolutions qui reste à faire, c'est de vraiment avoir une nouvelle forme d'humanisme. Parce que l'humanisme avec lequel on vit, qui est issu du XVIIIe siècle, est un humanisme qui, en fait, exclut de l'humanité toute une partie de l'humanité, une partie entière de l'humanité. Au XVIIIe siècle, tous les Noirs, et puis ensuite, de toute façon, avec les autres formes de colonisation, des Asiatiques, les peuples indigènes, enfin, c'est quand même une modernité extrêmement sanglante. Donc nous n'y sommes pas encore, nous n'y sommes pas à la réalisation de cette formule.
De toute façon, on devrait déjà dire tous les êtres humains et pas tous les hommes. Bon, mais nous ne sommes pas à la réalisation de cette formule. Nous n'avons toujours pas, la liberté est encore à conquérir, elle est encore devant nous. Évidemment, comme monsieur signalait les crimes policiers et le fait que ça reste totalement impuni, qu'il y a le mouvement Black Lives Matter qui a été quand même créé par des jeunes femmes, qu'il y a une violence énorme, que les prisons aux États-Unis sont remplies de jeunes noirs, qu'il y a plus, d'après les études, plus d'hommes noirs, donc en prison qu'il n'y avait d'hommes noirs esclaves à la fin de l'esclavage, on est en droit de se poser la question des faits de la non-réalisation de cette promesse de l'égalité et de la liberté. Tous les hommes ne naissent pas libres et égaux en droit, toujours, aujourd'hui. Et tous les êtres humains, et évidemment, les femmes non plus. Donc on est toujours, et je pense que si vous voulez, ce qu'il y a aujourd'hui dans tous les mouvements que l'on voit dans les Amériques et ailleurs, c'est la fin de ce mensonge. C'est quelque chose qui est en train de s'épuiser, si vous voulez, ce mensonge. Je ne peux plus y croire. Donc pour réaliser cette promesse, il faut évidemment la reformuler, d'abord tout en disant déjà tous les êtres humains, non pas tous les hommes, et d'autre part en voyant ce qui a mis des obstacles chaque fois. Le racisme très profond, et puis les formes de l'économie capitaliste aussi très profonde, les inégalités croissantes. Si vous voulez, la déclaration d'indépendance, elle n'est même pas, elle ne contient pas la réalité de sa promesse. Et on sait très bien qu'ils étaient tout à fait conscients, les signataires, qu'ils avaient des esclaves et qu'il y avait des esclaves qui allaient être exclus de cette déclaration. Et ils le savaient. Donc ils étaient conscients, mais ils sont conscients parce qu'ils ne considèrent pas, ils ne considéraient pas les Africains-Américains comme des êtres humains complets. Et ils continuent à considérer, il y a encore toute une partie de la population aux États-Unis qui continue à ne pas considérer les personnes qui ne sont pas blanches comme des êtres humains entiers. Donc oui, moi je pense, si vous voulez, qu'il est 1776 et aujourd'hui on voit bien que cette déclaration, elle n'était faite que par certains hommes, pour certains hommes. C'était, par évidemment toute une élite des gens, toute une élite qui a continué aussi à vouloir ne pas étendre. Même parmi les hommes blancs, ils n'étaient pas tous égaux, puisqu'ils n'ont pas tous obtenu les mêmes droits tout de suite. Donc à l'intérieur même de leur communauté, les droits étaient réservés aux propriétaires, aux grands propriétaires. Donc c'est une déclaration qui a été formulée par des personnes qui avaient tout à fait conscience de leurs intérêts sociaux, culturels, politiques et économiques.
Mais alors, et je me tourne vers Marilyn, hein, quand même un texte comme la Déclaration d'indépendance, c'est la base même de la société américaine. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour avancer si on ne revient pas sur ces fondements qui sont vieux, sur l'histoire?
Oui, ces fondements sont vieux et on a tendance très souvent à les brandir comme étant la base même, le socle même de la société américaine. Quand on pense à la convention, à la constitution de 1787, où les Noirs étaient considérés comme 3/5 des Blancs, si vous voulez, on se pose des questions. Il faudrait à la base revoir certains textes. Très souvent, je dirais même au Parti républicain, on a tendance à s'accrocher à ces anciens textes, à les brandir comme s'il s'agissait d'une véritable, Bible, alors que dans d'autres pays, comme par exemple la France, il y a eu la 4e, la 5e République, on revise assez souvent les textes, ce n'est pas toujours le cas aux États-Unis, et ça se reflète évidemment dans les élections, oui. Où on a toujours justement ces grands électeurs. Je voudrais revenir aussi sur la situation des Noirs entre 1776 et les droits civiques. Entre 1776 et les droits civiques, il y a eu toute une série de mesures qui ont été prises. Notamment après l'abolition de l'esclavage, au moment de ce qu'on appelle la reconstruction, hein, où le pays se reconstruisait.
Vous avez 30 secondes.
À ce moment-là, justement, les Noirs commençaient à prendre une certaine ampleur. Il y a eu des élus noirs après 1865. On commençait à avoir des élus noirs. Et justement, dès qu'il y a progrès aux États-Unis, eh bien, il y a un retour.
Voilà, ce sont les mots de la fin. Merci à vous, mesdames, pour votre analyse. Merci à tous nos auditeurs, à la production Michel Joseph, à la technique et à la présentation Morgane Diriec. À bientôt.